dans les lectures, dans les deux lectures, que ce soit la première ou l'évangile. Tout aujourd'hui est consacré, centré sur une description, sur un homme, Jean-Baptiste, le nouvel Élie. Donc on découvre d'abord Élie dans la première lecture, avec une description de faits assez extraordinaires. Je l'ai évoqué, je crois, il y a deux jours. Bon, Élie, c'est celui qui avait ordonné une ordalie. Si Dieu est Dieu, le feu descend. Voilà, c'est ça l'ordalie. Et donc le feu était descendu et avait consumé absolument tout. Et puis, ce texte finit, ça me paraît très important, sur une béatitude. Heureux ceux qui te verront. Heureux ceux qui se sont endormis dans l'amour du Seigneur. Je pense que ces deux messages sont extrêmement importants comme profil du précurseur, du Messie. Le précurseur, c'est Jean-Baptiste. Donc les prophètes avaient annoncé que Élie reviendrait. Il était parti sur un char de feu. Et nous découvrons donc dans l'Évangile, Jésus apprend aux apôtres que c'était Élie, c'était Jean-Baptiste en fait. Jean-Baptiste a déjà été exécuté. Alors on peut tout de même faire quelques objections. À notre connaissance, dans l'Écriture, il n'est pas question de choses merveilleuses qu'ait faite Jean-Baptiste. On ne nous a pas dit qu'il avait fait des miracles, alors que Élie, si vous allez regarder dans le livre des Rois, vous verrez que dans le cycle d'Élie, il y a un certain nombre de miracles, bon, notamment l'ordalie dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais il y a beaucoup de choses comme ça, et ça ne correspond pas à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, on ne nous dit pas qu'il ait fait des trucs de fou, quoi. On nous dit qu'il vivait dans le désert, qu'il était en retrait, ok, mais c'est tout. Et pourtant, Élie et Jean-Baptiste ont un point commun tout à fait intéressant. Élie avait une ennemie, j'allais presque dire sacrée, qui était la reine Jézabel, la femme de Naboth. Je ne sais plus comment s'appelait le roi du reste. Et Jézabel ne renonçait à rien pour que son mari, le roi, Akaz le roi, puisse faire tout ce qu'il voulait. Et elle fera assassiner Naboth en demandant que des vauriens viennent témoigner contre Naboth en disant qu'il a méprisé Dieu et le roi, et Naboth sera lapidé, moyennant quoi Akaz pourra prendre possession de la vigne de Naboth. Bon, tout ça c'est dans le livre des Rois, hein, vous pourrez retrouver ça. Et Jean-Baptiste, lui, il a une grande ennemie, c'est Hérodiade. Hérodiade, c'est la femme de Philippe. Et Hérodiade, elle a trouvé que le roi Hérode, il était plus intéressant que son pauvre mari Philippe. Donc, elle a séduit Hérode et elle vit avec lui. Et Jean-Baptiste est connu pour avoir dit à Hérode, il ne t'est pas permis de vivre avec la femme de ton frère. Donc nous trouvons un point commun avec ces hommes, entre ces deux hommes, c'est dénoncer le mensonge. Et je crois qu'au fond, c'est ça, le précurseur du Seigneur. C'est celui qui a essayé de dénoncer le mensonge, de faire revenir les pères vers les fils. de dire mais arrêtez de jouer avec la vérité. Et vous vous souvenez que durant le procès de Jésus, il sera question de vérité. Je suis venu rendre témoignage à la vérité. Et Pilate, qui n'y comprend rien, dira « Quid est veritas ? » Qu'est-ce que c'est que la vérité ? Voilà. Donc, une figure de Jean-Baptiste qui est un homme extraordinaire. Et ça doit vraiment retenir notre attention, notamment à notre époque, où le mensonge est un sport. Enfin, c'est même plus un sport, on ne sait plus ce que c'est. Il est tellement répandu partout, les gens mentent, disent l'inverse, cherchent leur intérêt, etc. Donc je crois que nous trouvons là un modèle, non pas pour que nous allions dénoncer à tue-tête les mensonges, mais pour que nous y trouvions une manière de se préparer à Noël, en dénonçant déjà nos propres mensonges, en dénonçant ce sur quoi nous avons fait des compromis. On dit oui, c'est pas très bien, mais moi je peux pas faire autrement. Vous remarquerez que ces phrases, elles commencent toujours par moi, je. Voilà. Et au fond, Jean-Baptiste désigne le Messie. Et renoncer au mensonge, c'est désigner le Messie à soi-même. On s'évangélise soi-même. Et aussi, éventuellement les autres qui peuvent voir que nous changeons. Voilà, donc je crois que c'est vraiment extrêmement important de nous focaliser, comme l'Église nous le propose aujourd'hui, sur cette figure de Jean-Baptiste, qui est l'homme de la vérité, au fond. Je crois que c'est ça qui le caractérise. C'est assez bouleversant hein, de voir que, par rapport à Élie, il n'a rien fait d'extraordinaire, quoi. Il n'a pas fait des actions éclatantes. Mais l'action éclatante qu'il a fait, c'est de donner sa vie pour la vérité. Il a été décapité parce que Hérodiade en avait marre de l'entendre dire qu'elle ne devait pas être avec Hérode. C'est impressionnant quand même. Voilà, est-ce que nous sommes prêts à perdre la tête pour corriger nos petits mensonges ou nos gros mensonges dans nos vies? Alors il ne s'agit pas d'aller regarder les péchés des autres, hein, les mensonges des autres. Parce que si nous allons voir les mensonges des autres et que nous essayons de leur faire remarquer, ils pourraient bien nous répondre, dis donc, tu as vu la poutre qui est dans ton œil. Et qu'est-ce que nous répondrons à ça? Voilà, donc occupons-nous de la poutre qui est chez nous et faisons la vérité pour accueillir la vie et la lumière. C'est vraiment ce que nous propose ce temps de l'Avent.